Bonjour à tous. Tu es plus grand que moi, quoi? Je viens de dire à Samuel que j'ai besoin de lui, mais pour être plus précis, j'ai besoin de vous tous. Et lorsque Dieu nous place dans une église, c'est parce qu'il veut que nous utilisions tous pour avancer par la foi. Et ce matin, Jésus voudrait vous encourager comme il continue à m'encourager dans la vie. Comme je partageais hier soir au groupe de jeunes et de moins jeunes, parce qu'il y avait quand même des personnes qui étaient plus matures, si on veut, que Dieu nous sauve par grâce. Le salut nous a été offert gratuitement. Mais la vie chrétienne, devenir saint à l'exemple de Jésus, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours évident. Okay. Et ce matin, j'aimerais que Dieu vous encourage. Pas moi, mais que la parole de Dieu puisse vous encourager. Et on va remettre ces instants dans les mains de Dieu. Oui, Père du ciel, premièrement, nous te bénissons parce que tu es au milieu de nous, éternel Dieu, en esprit. Et Père, tu nous as placé ton Saint-Esprit en nous le jour de notre régénération, le jour que tu nous as justifiés. Et Père, ce matin, nous comptons sur ton esprit afin d'être visité, afin que tu puisses, Père, encourager tous ceux et celles qui sont ici ce matin. Seigneur, nous sommes dans un monde parfois stressant, dans des situations des fois qui nous dépassent. Mais toi, tu demeures toujours fidèle. Et ta main est là, toujours prête à nous soutenir, répondant à notre cri de détresse. Tu es là pour nous secourir. Et je veux te bénir, Seigneur, pour ta parole. Puisses-tu, Seigneur, nous faire du bien tous ensemble ce matin dans le beau nom de Jésus. Amen. Okay. Vous savez, un des attributs de Dieu, je vais vous avouer, j'ai donc de la misère à rester en arrière d'un lutrin, moi. Je suis déjà porté à aller en avant. Mais je vais essayer de faire un effort ce matin. Un des attributs de Dieu, c'est que nous savons que Dieu est omniscient. Okay. Un Dieu qui connaît toutes choses. Un Dieu qui... Il n'y a rien qui l'étonne. Dieu connaît toutes choses de nous. Okay. Il a plein de connaissances. Et il vous connaît parfaitement. Parce que vous savez qu'est-ce que la Bible nous dit dans le psaume 139? Il vous connaît aussi parfaitement. Et Dieu savait même, aujourd'hui on est le 18 de mai, que Samuel serait assis là en avant. C'est-tu étonnant un peu, hein? OK. Et dans le psaume 139, au verset 16, il dit, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre était tout écrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. » Wow! Ça veut dire que les joies, les peines, les épreuves dans notre vie, la journée que le Saint-Esprit nous a attirés à cette croix victorieuse qui est en avant, Jésus avait tout planifié d'avance. Et dans la vie, nous avons des épreuves. Mais nous savons qu'est-ce que Dieu dit face à l'épreuve. Toute chose concourt à ceux qui aiment Dieu. Et je vous raconte une histoire d'une bonne amie à moi qui vient du Cambodge. Et dans sa jeunesse, il y a eu la guerre civile. Et un jour, l'armée est arrivée dans son village. Et ils ont obligé les femmes à monter dans un camion de force au péril de leur vie. Les hommes révoltés étaient en colère. Mais les hommes et les femmes ont dû se résigner face aux hommes de guerre, aux soldats. Juste avant de partir, ce camion était à ce point de partir. Le commandant est monté dans le camion. Il a regardé toutes les femmes, une après l'autre. Lui savait qu'est-ce qui les attendait. Et soudain, il a dit à un, « Celle-ci, descendez-la du camion. » Cette dame n'était pas chrétienne. Quelques jours plus tard, Dieu est intervenu dans sa vie. Quelques jours plus tard, cette dame a appris que toutes les autres avaient été exécutées. Imaginez-vous un peu la scène. Et Dieu est intervenu dans sa vie dans deux autres occasions similaires. Elle devait être tuée et Dieu a mis sa main. Le psaume 139, verset 6. Okay. Quelques années plus tard, elle s'est convertie à Jésus. Dieu lui a donné un mari. Elle vit maintenant au Canada, à Montréal. Et tous les deux sont missionnaires, avec la même mission que moi. Ils ont à cœur de retourner au Cambodge cet automne pour annoncer l'Évangile à ce peuple qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Voyez à quel point que Dieu, la providence de Dieu envers chacune de nos vies. Si vous êtes ici ce matin, venez pas me dire que c'est un hasard, absolument pas. Okay? Et Dieu voudrait nous enseigner ce matin, on va regarder une autre histoire vécue, une histoire véridique dans les évangiles, afin de nous encourager. Je peux vous dire que cette amie-là est technicienne dentaire et elle a conduit tellement de femmes au Seigneur. J'ai eu l'occasion de faire quelques voyages avec ce couple missionnaire et je bénis Dieu. C'est un couple cambodgien que je porte beaucoup dans mon cœur. Et lorsque j'ai lu son témoignage à cette dame toute petite, okay, wow, mon âme a béni l'Éternel. Et si Dieu a mis sa main sur sa vie, Dieu le fait pour chacune de vos vies. J'ai aucun doute. Tournez avec moi dans l'Évangile de Marc ce matin. Au chapitre 5. J'espère que vous me pardonnez de ne pas avoir votre accent toulousain. Ça va venir. Okay. Au chapitre 5, je vais lire à partir du verset 21 jusqu'au verset 34. Marc 5. C'est une histoire véridique, comme cette histoire que je viens de vous raconter. Il faut dire le contexte un peu. Jésus vient de sortir du pays de Gadara et puis vient de libérer un homme, un démoniaque qui vivait dans les sépulcres. Okay. Et puis Jésus le libère. Et là, les gens le chassent, les gens de ce pays le chassent de leur pays, de leur région, et Jésus traverse la mer. Et là, on arrive au verset 21. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Retenez, une grande foule s'assemblait près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un chef de la synagogue nommé Jaïrus qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Il lui adressa cette instance prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens. Impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Verset 24. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais, étant allée plus tôt en empirant, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière, secrètement par derrière, et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. » C'est le verset clé ici. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? » Voyons. Il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela, la femme effrayée et tremblante, sachant que ce qui s'était passé en elle vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guéri de ton mal. » Wow! Quel beau miracle! Quel beau miracle! Le titre du message, le Dieu de compassion. Dieu eut compassion de mon ami cambodgienne. Il a eu compassion de cette dame qui souffrait d'une maladie qui était très spéciale à cette époque. Okay. Il faut savoir que cette dame qui vivait cette maladie, on voit dans la loi de Moïse, dans Lévitique, on parle justement dans Lévitique 15 au verset 25, dans la traduction sommaire, « Si une femme a des pertes de sang pendant plusieurs jours en dehors de la période de ses règles ou au-delà du temps normal de son indisposition, elle sera impure tout le temps que durent ses pertes, comme au temps de ses règles. » Vous imaginez? Selon la loi de Moïse, elle était considérée comme une femme impure. Les gens de son village devaient dire, « Toi, tu as sûrement un péché dans ta vie. » Parce que souvent, dans la souffrance, dans la maladie, il y a toujours des frères ou des sœurs qui ont cette pensée-là. Okay. Un peu comme Job, dans l'histoire de Job. Okay. Donc, elle était rejetée. Elle était totalement isolée. Parce qu'aux yeux de sa nation, cette pauvre femme était impure, était indigne. Okay. Prenons conscience de la situation. Elle était malade pas depuis 12 jours, depuis 12 ans. Elle avait une mauvaise réputation en raison de sa maladie. Elle était rejetée parmi les siens. Elle qui avait quand même assez d'argent, elle avait tout dépensé. Elle était son compte de banque était un. Elle vivait dans une telle déception. Sans oublier sa solitude qui devait la hanter jour et nuit. Je me demande comment elle faisait pour dormir. Son état de santé, en plus d'avoir tout dépensé, après avoir mis son espoir dans les médecins, sûrement dans les plus grands spécialistes de sa région qu'elle connaissait, ça lui a donné rien. Donc, pour elle, il n'y avait aucun espoir de redevenir une femme normale. Avez-vous déjà été rejeté, frères et sœurs? Avez-vous déjà été rejeté par ceux que vous aimez? Je ne vous le souhaite pas. Je peux comprendre cette femme. Aujourd'hui, on peut se poser la question, là. Jésus peut-il me guérir? La vie chrétienne, c'est la plus belle des vies, mais où nous vivons tous des échecs. Nous sommes parfois malades, nous perdons notre emploi, nous vivons des déceptions, parfois nous sommes rejetés par ceux que nous aimons. Nous avons tous besoin d'être guéris, guéris physiquement, spirituellement, émotionnellement. Mais Jésus est là, qui veut nous guérir. C'est ça qui est bon ce matin, de savoir que cette femme qui avait été tellement rejetée par les autres, Jésus a eu pitié. Nous verrons ce matin les trois éléments de la foi qui nous permettent de goûter la compassion de Dieu. Dans ce texte, nous voyons que cette femme, par l'expérience vécue avec Jésus, quels sont les trois éléments qui nous permettent de goûter la compassion de Jésus? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais vous devez vouloir goûter la compassion de Jésus. Il n'y a rien de mieux. Vous connaissez des amis, vous connaissez un pasteur qui a un cœur en or, la femme du pasteur qui est merveilleuse, mais il n'y a rien contrairement à Jésus. N'oubliez jamais ça. Le premier élément qu'on voit ici, c'est que la foi nous donne une vision nouvelle. La foi nous donne une vision surnaturelle, okay, sur les choses de Dieu. Mais lorsque je dis Jésus, peut-il vraiment nous guérir? Ça suppose que nous sommes tous malades. Ça veut dire, ça suppose que nous avons tous des besoins dans la vie. Okay. Vous auriez dû me voir hier midi. Les quelques frères et les sœurs qui m'ont vu hier midi, j'en avais pas là, j'en avais là. Okay. Je bénis Dieu pour la sœur et le frère qui ont prié avec moi. Vous savez, il vaut mieux être honnête, dire « ça va pas, ça va pas ». J'en ai marre des fois. Et d'être transparent et de demander de l'aide. C'est ça. Ici, Jésus peut-il vraiment nous guérir? Oui, c'est approprié ce matin parce que Jésus, pour deux raisons. Parce que Jésus est le même. Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ses promesses sont immuables. Jésus ne change pas. Okay. Il nous dit dans Jacques 1:17, il n'y a en lui, il n'y a en Dieu, ni changement, ni ombre de variation. Wow! Il est l'alpha et l'oméga. Il est Adonai. Il est El Elohim, Dieu très haut. Dieu, celui qui a marché, voyant la foule dans Matthieu 9, voyant la foule, que Jésus fut ému de compassion. Ce même Dieu a encore la compassion pour vous. et pour moi. La deuxième raison pourquoi que Jésus peut nous guérir ce matin, peut consoler ton cœur ce matin, c'est parce qu'il n'est pas un Dieu de favoritisme. Et j'aime ça. Hein? Il n'y a pas de chouchou avec Dieu. Je ne sais pas si vous dites ça des fois, là. Ah, c'est tout un chouchou, hein? Il est préféré des autres, lui. Non, non. Hein? Je peux vous dire que, tourne avec moi dans Romains 2.11. Romains 2.11. Qu'est-ce que, de la main de l'apôtre Paul, Dieu nous dit? Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Wow! Ça veut dire qu'il ne fait pas d'exception de personne. Donc Dieu, ce que Dieu a fait pour cette femme, cette pauvre femme, et même pour mon amie cambodgienne, Dieu peut le faire pour vous. Si vous voulez avoir des versets qui confirment que Dieu n'est pas un Dieu de favoritisme, dans les Actes des Apôtres au chapitre 10 au verset 34, Romains 10, 12, Galates 2, 6, Éphésiens 6, 9, Colossiens 3, 25, si vous n'en avez pas assez, vous viendrez me voir. OK. Donc Dieu n'est pas un Dieu de favoritisme. Wow. OK. Mais si Dieu est fidèle, il ne change pas. Si Dieu n'est pas un Dieu de favoritisme, si on regarde le verset qui nous dit dans le passage ici, la foi, si je puis, au verset 28 plutôt, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Dieu en retour nous demande à tous d'avoir la foi. Savez-vous, lorsque cette sœur qui a prié hier avec moi, dans la prière, je me voyais comme cette femme. Comme cette femme, je disais, Seigneur, je suis impur d'être guéri de cette migraine qui me fait tellement souffrir. Parce que tu es un Dieu de compassion, Jésus. Je sais que tu peux me soulager. Savez-vous qui l'a fait? Il n'est pas un Dieu de favoritisme. Mais en retour, Dieu nous demande d'avoir la foi. Il nous dit dans Hébreux 11.6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Ah! Ah! La clé! La clé! Au lieu de franchir la porte du cabinet du médecin, nous, ça nous prend la clé. Ça nous prend la foi. Okay. Donc, sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. Et la foi nous dit dans Hébreux 11, la foi est une ferme assurance des choses, quoi? Des choses qu'on espère. OK. Qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On voit ça dans Hébreux 11.1. OK. Mais pourquoi la foi nous apporte-t-elle une vision surnaturelle? Parce que l'homme naturel ne peut comprendre, ne peut saisir les choses de Dieu. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ tout à l'heure, ce matin, et même si on avait mis des batteries à l'intérieur de la lampe de poche, ça ne fonctionnait pas. OK? Il y avait un problème. Mais nous avons tous un problème par le péché. Qu'on vienne de l'Allemagne, qu'on vienne de la Belgique, de la France, du Canada, du Cambodge, on est tous perdus pour l'éternité par le péché. C'est ça. Alors, notre frère nous a cité tout à l'heure Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Être privé de la gloire de Dieu là, par le péché, là, ça veut dire que tu n'as pas accès au royaume de Dieu. La porte est fermée hein, en arrière, mais les gens n'ont pas accès à l'intérieur parce qu'ils sont coupés de la relation avec Dieu. C'est ça. Okay. Dieu, nous avons besoin d'avoir une vision. Par la foi, lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous avons cette vision. Et cette dame a eu cette vision spirituelle, cette nouvelle vision, cette foi lui a apporté cette nouvelle vision que quoi? que ce Jésus qui était connu à travers les villes et les villages, Jésus était devenu très populaire par les miracles. Les foules s'assemblaient autour de lui, surtout pour être guéris, pour assister, pour être témoin. Mais cette dame qui était malade, elle s'est dit, « Moi, j'ai la vision céleste. J'ai une nouvelle vision que Dieu me donne dans mon âme. Oui, je peux être guéri. » Waouh, c'est ça. Vous savez, hein, on peut croire en Dieu. Savez-vous comment on appelle ça une foi qui... Il y a deux sortes de foi, pour ça. Il y a une foi qu'on appelle déisme, celui qui a une croyance déisme. Il croit en Dieu, mais il ne le connaît pas personnellement. OK. On est dans une religion, on croit en Dieu, mais si je pose la question à quelqu'un, « Connais-tu Dieu intimement? » Il me regarde. « On peut-tu? » On peut, ça on appelle ça une foi déisme. Mais une foi qui est théisme, T-H-E, okay? Ça, c'est différent. Ça, c'est celui qui est né de nouveau, celui qui a reçu l'Esprit de Dieu, qui est justement comme Amélie, ta lampe de poche, ça fonctionne. Okay? Là, il peut avoir la vision de l'Éternel. Il peut avoir cette vision de se tourner vers le vrai Dieu de consolation, peut être guéri, être consolé. Donc, ma question est-ce que vous avez une foi déisme ou théisme ce matin? C'est ça. Dans mon cœur, j'espère que si vous n'avez pas encore adhéré à une foi, à la bonne foi, que Jésus puisse vous donner la grâce de le connaître et de pouvoir avoir cette vision surnaturelle. Okay. Et lorsque nous avons cette vision, il nous est dit dans Éphésiens 3, 12, « En lui, nous avons par la foi, encore par la foi, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. » Wow. Donc, le premier élément de la foi qu'on voit dans le passage, c'est qu'elle nous donne une nouvelle vision. La deuxième, c'est que cette foi nous pousse à l'action. Elle qui était rejetée, là, ça lui a pris du courage, là, parce qu'elle devait se dire, qu'est-ce qu'ils vont dire lorsque moi, je vais sortir de chez moi? Waouh! Hein? Elle devait dire, mais sa foi est assez forte pour dire, ce Jésus est en avant, moi, je m'avance. Coûte que coûte, peu importe ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils diront de moi, moi, je m'avance en avant et je vais à ce Jésus parce que Jésus est le seul espoir. Elle qui n'avait plus d'espoir, maintenant, elle passe de la noirceur à la lumière. Comme cette lampe de poche de ce matin. Waouh! La vraie foi nous pousse à l'action. Qu'est-ce qui est remarquable, c'est que la foi l'amène ici au verset 27, et il nous est dit, « Elle ose traverser cette foule ayant les regards sur Jésus afin de toucher son vêtement. » Elle s'est dit, « Peu importe ce qu'ils diront, je vais à Jésus. » Elle a tellement une détermination en elle que sa foi est remarquable. Cette femme qui avait mauvaise réputation, elle dit, « Abat ceux qui vont penser de moi, moi je regarde à Jésus. » Il y a une clochette qui sonne. Sûrement que dans son cœur, elle a tendu la sonnette de Jésus. Et c'est vrai. OK. Mais vous savez, selon la loi de Moïse, cette femme n'avait pas le droit de se retrouver parmi la foule. Son geste vient renverser tous les préjugés de la religion. pour ceux qui connaissaient la loi, c'est un sacrilège, c'est un scandale qu'elle vient de faire. Elle agit à travers un peuple qui connaît la loi. Avez-vous pensé au regard de cette foule? Waouh! Mais elle ose faire quelque chose d'inusité. Qui aurait pensé, moi, je vais toucher au veston de quelqu'un, puis je vais être guéri? C'est sûrement que si elle aurait dit ça à d'autres personnes avant de le faire, ils l'auraient traité de de folle. Mais elle s'est dit, vous savez, quand Jésus vous donne une conviction dans votre cœur, puis que vous savez, ça vient du Saint-Esprit, croyez au Saint-Esprit. Dieu va faire des miracles en vous. Okay. Sa foi même la pousse à être irrationnelle. Toucher un vêtement, qui aurait pensé faire une chose semblable? Okay. Dans les évangiles, on voit que cette femme, elle s'est dit, juste pas se jeter à genoux devant Jésus, mais voulait d'une façon discrète, on voit ça au verset 27, elle vint dans la foule par derrière parce que en elle-même, elle avait honte d'elle. Elle avait honte de sa maladie et elle voulait être guérie, mais sans trop déranger. Mais Jésus l'a surpris. On voit ça à la fin. Mais la foi de cette femme l'amène à passer à l'action, à être irrationnel, à faire quelque chose d'inusité, mais l'Esprit l'avait convaincu de faire. Je ne sais pas, lorsque vous êtes converti à Jésus-Christ, je suis convaincu que si après la réunion, vous, tous ceux qui appartiennent à Jésus, qui ont reçu l'Esprit de Dieu, si vous venez me voir, puis vous me dites, Pierre-Alain, voici comment Dieu m'a sauvé, il n'y en a aucune personne qui va me dire le même scénario. Comment que Jésus l'a sauvé? On est tous sauvés d'une façon très différente. Okay. Et dans ce cas ici, cette femme impure depuis 12 ans, Dieu l'amène à être guérie d'une façon très spéciale. Juste lui donner le désir de toucher à la robe de Jésus. Aujourd'hui, par la foi, vous allez me dire, ouais, mais Pierre-Alain, Jésus n'est plus sur cette terre, je ne peux plus toucher à la robe de Jésus. Je dirais oui. En esprit, vous pouvez saisir sa main. Tournez avec moi dans le psaume 119 au verset 173. Je n'ai pas besoin de tourner. Le psaume 119, nous voyons qu'est-ce que David fait dans ce psaume, dans le psaume 119 au verset 173. David dit « Que ta main me soit en aide. » Wow. Comme nous avons un Dieu de compassion, la main de Dieu est toujours là. Okay. Dans le psaume 37 au verset 23 et 24, ou 24 et 25, Dieu me donne cette... Le psaume 37. Verset 23 et 24, c'est ça. « L'Éternel a fermé les pas de l'homme. Il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé. » Car l'Éternel lui prend la main. Le psaume 37, verset 23 et 24. Donc, l'Éternel, la main de l'Éternel, je vais me dire, ouais, mais Pierre-Alain, la main de l'Éternel, c'était pour David. Erreur. Nous avons lu dans Romains 2, 11 que Dieu n'est pas un Dieu de favoritisme. dans Échec et mat. Dieu, par la foi, nous tend la main pour nous sortir, pour nous consoler, pour nous guérir. Okay. Devant une telle situation, vous arrive-t-il déjà de crier comme dans votre cœur, de crier comme cette femme? Vous en avez ras-le-bol de votre situation. Vous êtes fatigué de porter ce fardeau. Mais Jésus est là ce matin qui voudrait vous guérir comme cette dame. Il s'agit juste par la foi d'avoir une foi active, une foi qui passe à l'action. Peut-être de faire quelque chose d'inusité, peut-être. C'est le Saint-Esprit qui va vous le dire. Le troisième élément de la foi, c'est que la foi nous donne toujours une bénédiction. Puis je dirais même, la foi nous donne toujours une grande bénédiction. Okay. On est tellement étonnés. Vous auriez dû me voir hier soir. Hier soir, Samuel, je vous posais la question à Samuel. Okay. J'ose lui poser une question. Lui qui m'a vu hier midi, est-ce que j'étais le même homme hier midi que hier soir? Ah, OK. Donc, suite à la prière, Dieu m'avait tendu la main et il m'avait relevé. Wow! C'est ça, je bénis Dieu. Si Dieu l'a fait hier soir, pas plus tard qu'il n'y a même pas 24 heures, pensez-vous qu'il peut le faire ce matin? Amen! C'est pas fort. Oh boy, Seigneur, donne-leur la foi, Seigneur Jésus. Oh. Amen. C'est mieux ça. Ok. J'ai commencé à avoir peur. Là, moi là. Ok. Donc, la bénédiction. Cette femme goûte enfin une grande délivrance. Pourquoi? Parce que sa foi lui a donné une nouvelle vision, et cette nouvelle vision l'a poussée à l'action vers Jésus. Dieu, dans sa bonté, lui permet de goûter à une guérison totale. Je dis bien totale parce qu'il nous est dit au verset 29, « Au même instant, la perte de sang s'arrêta. » Wow! Vous comprenez ça, les femmes? Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Ma migraine n'était plus là hier. J'étais guérie. Jésus prend nos fardeaux. Jésus prend nos deuils. Vous savez, deux jours après que j'ai perdu mon papa, le 29 de février, on m'avait invité à prêcher dans une autre assemblée. Et tout au long de ces deux jours, j'ai réellement vu la main de Dieu qui me soutenait. Dieu me soutenait. Et nous avons un Dieu. Trop souvent, l'erreur que nous commettons, j'espère que vous la faites, vous ne le commettez pas, cette erreur-là. C'est de voir, c'est d'imaginer que Dieu, Jésus est assis sur son trône à côté du Dieu le Père, puis qui répond à nos prières, mais qui est bien occupé. Il est trop occupé pour prendre soin de vous. OK. Ça, c'est le piège de l'ennemi. Yeah. Jésus est avec nous en esprit, il nous a donné son esprit. Nous avons tellement entendu parler de ce matin. Donc, Jésus, par son esprit, est un Dieu de consolation. Il veut vous guérir. Au verset 34, il nous dit, Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Wow! « Va en paix et sois guéri de ton mal. » La foi de cette dame a dépassé tous les tabous de la religion qui la constaient comme impure en raison de son hémorragie. Mais Jésus l'a guérie. Ça nous prouve quoi? Aucun péché, aucune épreuve, aucun fardeau devient trop lourd pour Jésus. Absolument pas. Si j'aurais eu mon conteneur, j'aurais pu vous faire entendre un chant ce matin qui est un beau chant qui nous invite à remettre nos fardeaux à Jésus. Ce sera sûrement lors d'un autre message. Mettons-nous à sa place, elle qui souffrait physiquement, spirituellement, sur tous les aspects de la vie, elle est guérie enfin après 12 ans. 12 ans de cauchemar. Wow. Si ce n'est pas recevoir une bénédiction, okay. Pour Jésus, elle qui voulait être guérie en secret, pour Jésus, Jésus avait planifié d'autres plans pour elle. Et c'est pareil pour vos vies des fois. Il nous est dit au verset 33, « La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. » La foule était là autour. Elle qui souhaitait être guérie d'une façon très, très discrète, Jésus permet que la bénédiction soit connue parmi la foule. Et lorsque vous êtes guéri, lorsque Dieu vous console, Dieu vous fait du bien, bien le dimanche matin, c'est bon, même si nous n'avons pas eu ce matin en raison du programme, c'est que c'est bon et Dieu aime qu'on partage les bénédictions que nous avons eues durant la semaine. Wow! J'ai aucun doute que cette femme-là doit avoir dit à tout le monde après, « Hey! Ce Jésus de Nazareth, c'est lui qui m'a libéré, c'est lui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a sauvé. » D'aucuns, peut-être, ont dit, « Ça t'a coûté combien? » OK? Avez-vous déjà entendu ça? Dans vos amis, dans... « Oui, mais ça coûte quelque chose pour aller à cette église-là. » OK? Jésus n'a rien à foutre de notre argent. Jésus veut notre cœur. Oui, en retour, on l'honore, on l'adore pour les biens qu'il nous donne, en retour, en lui donnant nos dîmes et offrandes, mais juste en signe de reconnaissance. Ce n'est pas ça qui va nous amener une meilleure vie, absolument pas. Mais notre amour se prouve envers Dieu par nos dîmes et offrandes. En conclusion, nous avons vu les trois éléments de la foi. La première, c'est que la foi nous donne une nouvelle vision. Deux, la foi nous pousse à l'action. Même des fois, des choses inusitées, irrationnelles. Puis trois, la foi véritable, lorsque nous avons l'Esprit de Dieu, la foi nous apporte tellement de belles bénédictions parce qu'ils viennent de Dieu. Wow. En conclusion, devant le Dieu trois fois saint, nous qui sommes tous impurs, parce que qui sommes-nous? Si moi, je pourrais me cacher et me faire tout petit comme mes petits-enfants, je me cacherais juste en arrière du lutrin parce que je suis un homme impur devant Dieu. Mais lorsque je me cache en arrière de Jésus qui est là, Dieu voit Jésus qui m'a couvert de son sang. Et c'est pareil pour vous. Okay. En raison de la vie qui n'est pas toujours facile, mes chers amis, frères et sœurs, nous avons tous besoin d'être guéris. Peut-être pas de la même maladie que cette dame, que cette pauvre femme, mais nous avons tous besoin d'être guéris. Premièrement, être pardonnés, guéris de nos péchés, avoir été à la croix de Jésus par la foi pour dire, « Seigneur, je suis un pécheur perdu, je ne mérite pas d'aller au ciel parce que j'ai péché contre toi et contre le ciel. Mais pardonne-moi, tu es le seul sauveur, je veux être sauvé. » Soyez assurés que Jésus, ce matin, entend ton cœur qui souffre. Peut-être comme cette femme. Peut-être comme le mien hier. Et Jésus voudrait te tendre la main. Il te tend la main ce matin pour être guéri. J'aimerais juste finir par un mot de prière pour vous donner l'invitation de venir à Jésus. Prions. Seigneur Jésus, encore une fois, nous avons vu que cette femme qui était rejetée par son peuple, par ceux qu'elle aimait, qu'elle avait tout dépensé, tu as permis qu'elle mette toute sa confiance, son espoir en toi, Jésus. Et ce matin, Père, tu connais tous ceux qui sont ici dans ta maison. Moi, je n'ai pas besoin de les connaître, Seigneur. Toi, qui es un Dieu omniscient, qui connais, Seigneur, ces hommes et ces femmes qui souffrent, qui ont un fardeau lourd à porter, qui ont des attentes, qui aspirent à quelque chose de meilleur, Seigneur. Seigneur, ma prière, c'est que tu leur fasses grâce de saisir ta main, comme disait David, que ta main me soit en aide. Tu peux crier à Jésus ce matin, dire, « Guéris-moi, je t'en prie, Jésus. Aie pitié de moi, Jésus. Viens mon secours, soulage-moi. Pardonne mes péchés, Jésus. » Gardons silence un instant. Père, merci pour ton esprit qui guérit. Merci parce que c'est toi qui attires les hommes et les femmes à la repentance, qui nous pousse à agir par la foi. Bénis ces paroles, Seigneur, que nous avons entendues ce matin pour la gloire de ton nom. Amen.